quatrième et dernier temps de notre série consacrée à la guerre froide et à son histoire. Ce matin, le débat. Après un nouvel épisode de notre feuilleton La Fabrique de l'Histoire scolaire, puisque nous sommes jeudi, nous allons, pour conclure cette série d'émissions et nos deux années de feuilleton La Fabrique de la Guerre froide, nous intéresser à la façon dont les membres des deux blocs ont continué à se parler entre les années 40, la fin des années 40 et la fin des années 80. Nous vous parlerons donc avec Anaïs Quin, qui a préparé toute cette série avec nous, de colloques universitaires, de réunions interparlementaires, mais aussi de négociations à table, et nous le ferons avec Justine Faure, allée maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Strasbourg, spécialiste de la guerre froide. Elle travaille actuellement sur les échanges universitaires entre États-Unis et bloc soviétique. Vous avez également co-dirigé un numéro avec Sandrine Cotte sur la constitution du bloc de l'Est. C'était dans la revue 20e siècle. Emilia Robin sera également avec nous. Elle est directrice d'études à l'Institut Georges Pompidou et vous vous intéressez aux contacts parlementaires entre les deux blocs. Et vous avez dirigé avec Christian Winkel un numéro de la revue Parlement sur la diplomatie parlementaire. Et Nicolas Badalassi nous rejoint également. Il est maître de conférence à l'Université de Bretagne-Sud. Vous êtes l'auteur d'une thèse sur le processus d'Helsinki, publiée aux presses universitaires de Rennes en 2014. Et vous avez dirigé avec Ouda Ben Abouda les pays de l'Est et la Méditerranée au cahier de l'Iris. Mais je vous l'ai promis, nous sommes jeudi, donc un nouvel épisode de notre feuilleton La Fabrique de l'Histoire scolaire, préparé par Séverine Yattard.
Charlemagne, fils de Pépère le Bref, 768-814, les rois fainéants et les maires d'Austrasie.
Les dates, le Saint-Empire, oh, tout est prévu.
Je parle à des gens qui font semblant de m'écouter, semblant de me regarder. Je suis là, vous me voyez?
Les dates, le Saint-Empire, oh, tout est prévu.
Est-ce que vous me voyez?
La fabrique de l'histoire scolaire.
Vous m'écoutez, s'il vous plaît?
Faut pas que ce soit un cours. L'histoire, il faut pas l'apprendre, il faut la comprendre.
Je vais interroger quelqu'un sur la leçon qu'il y avait à apprendre pour aujourd'hui.
Les élèves de terminale de Sébastien Durand, au lycée Olympe de Gouges, ont dans un premier temps observé scrupuleusement leurs cartes pour les comprendre et les maîtriser. Dans ce jeu sur les relations entre les États-Unis et l'Amérique latine, ils doivent incarner un camp précis et respecter qui plus est la chronologie des événements.
On démarre. Alors, autre. Donc, je vous rappelle qu'à chaque fois, on joue des points, qu'on peut perdre des points si on coupe la parole, si on prend la parole de manière anarchique, etc. Donc, ça se joue aussi à ce niveau-là. L'écoute de l'autre, permettre à l'autre de construire son argumentation, c'est essentiel. Voilà. On démarre. On rappelle les camps, États-Unis, force de droite, Cuba, URSS, force de gauche. Ok. Donc première période de jeu, 1959-1962. C'est parti. URSS.
C'est la crise des missiles à Cuba.
Mauvais choix, Manza. La crise des missiles à Cuba, elle se déroule en 1962. On est dans la période, mais tu sautes des étapes. Audrey.
En 1959.
Audrey, attention, oh perds le point sinon, Audrey.
En 1959, il y a une guérilla menée à Cuba par Fidel Castro.
Eh messieurs, on écoute sinon on perd les points. Très bien. Premier point gagné, il sort le bon événement au bon moment. Donc, en 1959, la guérilla castriste conduite par Fidel Castro et également Che Guevara, dont on a parlé hier, prend le pouvoir à Cuba. Et donc, renverse le dictateur Batista qui fut longtemps une sorte de relais des États-Unis dans cette île de Cuba, qui, on le sait, on l'a dit hier aussi, a une importance stratégique de taille dans cette fameuse chasse gardée des États-Unis. Ok ? On continue. Angélique, on écoute.
L'armée de Fidel Castro repousse victorieusement le débarquement d'une armée de Cuba anticastriste.
Très bien, un point pour Cuba. L'échec du débarquement de la baie des cochons, c'est quoi ce débarquement?
c'est une armée de Cubains anticastriques soutenue par la CIA qui a débarqué à Cuba.
Pas de problème, armée de Cubains anticastriques, donc contre Castro, soutenue et armée donc par la CIA, la CIA, les services secrets américains. Dans quel but?
Pour faire partir Fidel Castro.
Ah voilà, pour renverser Fidel Castro. Bon, la justification est un peu chaotique, mais elle est bonne quand même. Ça marche. Ok. Lina.
La crise des missiles à Cuba.
Ah bon. Moins un pour force de gauche. Alexis, vas-y.
La crise des missiles de Cuba. Enfin, à Cuba.
Non, on vient déjà de l'invalider. Zadi, qui attend impatiemment, sans parler, c'est très bien.
Moi, j'aurais mis l'alliance.
Bravo, très très bien. Vas-y. Oui, tu nous expliques. Vas-y.
En gros, juste après qu'il y ait eu la baie des cochons.
D'abord, c'est quoi?
C'est l'alliance.
Entre Cuba,
voilà.
Et l'URSS.
Et l'URSS. Elle est désormais officialisée, elle est claire, à partir de 61. Bon.
Avec une affiche.
Avec une affiche qui représente Fidel Castro et Nikita.
Donc première phase qui se termine ici avec 62 qui marque une étape, hein, on l'a vu, cruciale dans cette évolution des relations entre les États-Unis et l'Amérique latine et avec finalement ce régime cubain qui désormais semble consolidé. Vous êtes prêts ?
Léo.
Ensuite on a
Attention à
pas se tromper. Moi je me cache.
Alors ensuite on a le coup d'état militaire au Brésil.
Alors ça marche. Ça marche.
En fait, au Brésil, les militaires.
C'est
quoi déjà ?
C'est
l'URSS.
C'est pas eux de jouer la carte. Hein, l'URSS, il a aucun rôle dans ce coup d'État au Brésil. Donc c'est reparti. Un point pour Cuba là-bas.
C'est quoi là-bas ?
Écoutez bien.
C'est la guérilla des FARC en Colombie. C'est une guerre d'embuscade et d'harcèlement menée par de petits groupes armés.
D'accord, contre une armée régulière. Okay. C'est, sous d'autres termes, la guerre du faible contre le fort, la guerre du peuple. Alors, c'est là où il va falloir qu'elle soit habile. C'est jouable, mais il va falloir être habile. Allons-y. Quel rapport avec Cuba ? Alors, ça
Dans les années 80, les... Je parle.
Vas-y, parle.
Dans les années 80, les États-Unis...
On est dans les années 60, là.
Oui, mais là, il y a... regardez. À partir des années 80.
Bon, trop laborieux. Non, vas-y.
Voilà. C'est parce qu'il y a écrit « Combat de l'armée gouvernementale pour défendre l'appropriation des terres par les petits paysans ». C'est la réforme agraire.
D'accord, quel rapport avec Cuba ?
Le rapport avec Cuba, c'est qu'à Cuba, il y a aussi le combat pour la réforme agraire.
Ouais, ok. Bon, en fait, le rapport qu'il fallait trouver, personne s'en est vraiment sorti. Il fallait évoquer... Les Focos, dommage. Les Focos, qu'est-ce que ça veut dire en espagnol ? Feu. D'accord. Donc, allumer des foyers révolutionnaires dans l'Amérique latine pour déstabiliser ce contrôle et cette domination. Chut, s'il vous plaît. Donc, on pouvait associer les FARC parce que je pense que c'était une guérilla qui était, comme beaucoup de guérillas le seront à cette époque-là, soutenue par Cuba. Matériellement et aussi avec des moyens humains, un peu financièrement, mais les moyens de Cuba étaient trop limités pour faire une aide... consistante.
Voilà pour ce nouvel épisode de la Fabrique de l'Histoire scolaire qui tente par ce jeu justement de comprendre ce qui se passait dans l'Amérique latine des années 60, 70 et 80 en pleine guerre froide. Bonjour Anaïs Quin.
Bonjour.
Bonjour à vous Justine Faure.
Bonjour.
Bonjour Nicolas Badalassi.
Bonjour.
Et bonjour à vous Émilien Robin.
Bonjour.
Merci d'être là pour parler justement guerre froide. Est-ce que vous pensez que c'est un bon moyen de faire ressurgir justement dans une classe ces conflits en faisant jouer des rôles à celles et ceux qui sont dans la classe par petits groupes, Émilien Robin, pour pouvoir comprendre ce qu'étaient les jeux d'alliance, les retournements d'alliance pendant une période que peu de ces jeunes élèves comprennent parce que, enfin en tout cas, elle s'est éloignée d'eux en l'occurrence.
Alors, c'est un grand défi pédagogique, effectivement, d'enseigner la guerre froide qui finit depuis bientôt 30 ans et qui est très préhistorique pour ceux qui ne l'ont pas connue, qui renvoie à un univers absolument impossible à envisager, de quelque chose aussi monolithique et aussi idéologique également. Donc, si tous les moyens qui permettent de s'approprier une période historique par une pédagogie active peuvent être intéressants.
Justine Faure.
Oui, je pense que c'est aussi le biais de l'Amérique latine et une bonne idée pour montrer le caractère global de l'affrontement américano-soviétique et que, en gros, pratiquement tous les continents ont été touchés par cette rivalité.
Nicolas Badalassi.
Oui, en plus, la guerre froide est une période qui se prête très bien au jeu, hein, au jeu de cartes, à la stratégie. Donc finalement, le principe est assez bien trouvé pour mettre en valeur effectivement le processus global de la guerre froide.
Et alors évidemment, Anaïs Quin, quand il s'est agi de faire une série conclusive à votre feuilleton pendant 2 ans dans la Fabrique de l'Histoire, 78 numéros consacrés à la guerre froide, eh bien vous avez voulu nous surprendre en disant, mais tu comptes faire la guerre froide, il y a aussi un repli de la guerre froide, c'est la question de la façon dont les populations ou les États ont continué à se parler malgré cette guerre froide, Anaïs.
Oui, et puis je crois que c'est ce qu'on entendait très souvent peut-être dans cette série, La Fabrique de la guerre froide, c'est que malgré tout, malgré les grands moments conflictuels qu'on aime à se rappeler, qui sont des moments évidents où les ennemis sont clairement définis pour chacun, cette dimension-là, cette dimension de toujours garder malgré tout la possibilité de se parler et de construire quelque chose et de sortir de cette guerre froide reste à l'esprit, alors peut-être pas au tout début des années 50, mais progressivement devient quelque chose de fondateur et va permettre d'ailleurs à cette planète de sortir de cette guerre froide.
Oui, Émilien Robin, on dit effectivement que cette guerre froide commence en 1947, c'est généralement la date que l'on choisit, même s'il y a des prémices auparavant. Ces moments de discussion et de débat, ils commencent à cette période-là, dès la fin des années 40, où il faut attendre un peu plus longtemps pour qu'on envisage de nouer des liens, que ce soit des liens d'ailleurs entre parlementaires, entre hommes politiques, entre États, entre technocrates des deux côtés.
Alors effectivement, à partir de 48, il y a ce qu'on surnomme la glaciation stalinienne, et vraiment le moment de l'apogée de la guerre froide la plus congelé qu'il puisse être, et il faut attendre la mort de Staline pour avoir des ébauches de contacts qui se renouent lentement, qui peuvent être sur un plan commercial en dénouant un accord quelconque qui était en suspens depuis 5 ans, ou qui peut être par le biais de voyages progressifs, d'hommes politiques, de commerçants, éventuellement de sportifs ou de scientifiques, tout ça de manière extrêmement, extrêmement limitée. Il me semble que le tourisme français vers l'URSS en 55, c'est de l'ordre de 30 000 personnes, peut-être moins. Donc c'est vraiment extrêmement limité. Et au début des années 50, c'était 5 à 6 000 personnes, peut-être. Donc c'est vraiment des flux extrêmement ténus qui se renouent très progressivement.
Anaïs Quin.
Oui, Justine Faure, il faut peut-être envisager aussi ce on qui traite de guerre froide à plusieurs niveaux, parce que le niveau diplomatique, le niveau universitaire dont vous vous occupez, le niveau scientifique dont vous vous occupez par ailleurs, vous-même, Émilia Robin, ont des réactions parfois très différentes et tentent d'envisager des solutions originales et très spécifiques pour chaque pays prenant part à cette guerre froide pour tenter malgré tout de créer des ponts de coopération intellectuelle, scientifique, institutionnelle.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a des chronologies différenciées entre les pays, à l'intérieur des pays, entre les groupes. Et donc, Émilia Robin parlait de la mort de Staline pour la France. Dans le cas des États-Unis, il faut attendre quelques années de plus pour que les circulations puissent se mettre en place avec l'URSS. Et dans ce cadre-là, en effet, le secteur privé et si on réfléchit aux échanges universitaires, les universités vont être pionniers, c'est-à-dire que le gouvernement américain va jusqu'en presque 57 être assez réticent à voir venir sur son territoire des chercheurs soviétiques. Donc l'idée de rideau de fer continue à fonctionner, y compris du côté américain.
Est-ce que c'est comme ce que nous disait à propos de l'entre-deux-guerres, il y a très peu un spécialiste de justement des fondations américaines, qui Ludovic Tournès, qui nous expliquait qu'au bout du compte, là où les États-Unis n'avaient pas voulu entrer, par exemple dans la SDN, ils avaient fait entrer par différents moyens, dans les commissions de la SDN, tout un tas de fondations américaines pour que l'influence américaine puisse pénétrer quand même cette institution internationale dans laquelle il n'avait pas voulu entrer formellement. Est-ce que c'est la même chose après ces années 50 pour vous, Justine Faure, pour justement ces universitaires, ces organismes universitaires qui veulent renouer des liens avec les organismes d'Union soviétique?
Alors, c'est pas tout à fait pareil, parce que les universitaires ont toujours été très soucieux de ne pas être totalement instrumentalisés par leur gouvernement. Et donc, les premiers soviétologues américains à tenter de mettre en place des programmes d'échange avec l'Union soviétique le font contre l'avis du département d'État. Mmh. Donc, ils ne sont pas, dans un premier temps, instrumentalisés par le gouvernement d'État. Ils sont pionniers dans ces circulations scientifiques, contre l'avis du département d'État. Ensuite, il y a un partage de vues, c'est-à-dire qu'à la fois les universitaires américains et le gouvernement américain partagent un certain nombre de grandes options, et donc en particulier l'idée que ces circulations universitaires doivent faire avancer l'intérêt national américain, mais on peut pas parler d'universitaires qui seraient totalement instrumentalisés, qui seraient des objets dans les mains de leur gouvernement.
Anaïs Kien.
C'est d'ailleurs l'originalité et la spécificité de ce système américain qui invente une manière d'échanger malgré tout avec le bloc de l'Est. Et vous dites bien d'ailleurs dans un de vos articles que la France et la Grande-Bretagne n'ont jamais atteint ce niveau de possible d'échange sans la suspicion d'échange par intérêt ou par stratégie d'espionnage éventuellement d'ailleurs.
Oui, on a quelque chose de très particulier dans le modèle américain qu'on ne retrouve pas dans le modèle français, qui est le rôle de ce secteur privé dans les circulations et qui résulte à la fois de la volonté des acteurs privés mais aussi de l'intérêt du gouvernement.
Alors peut-être qu'il faut qu'on cite d'ailleurs quelques fondations privées qui participent à cette réflexion et au financement de ces programmes d'échange.
Les plus importantes sur lesquelles Ludovic Tournès a travaillé, qui sont notamment la Fondation Ford et dans une moindre mesure la Fondation Rockefeller pour la période de la guerre froide.
Mm-hmm. Émilien Robin, cette particularité française tient à quoi justement, par exemple française ou britannique, vis-à-vis de cette possibilité de nouer ou de renouer des liens justement avec les gens du bloc de l'Est, à des positions qui sont un peu différentes des positions américaines dans la façon de se rapprocher? Est-ce que le fait que, par exemple, le Parti communiste soit si puissant dans la France des années 50 laisse imaginer au gouvernement qu'il est peut-être difficile de se rapprocher de la même manière que les Américains le font de ces scientifiques ou de ces parlementaires du RSS?
Alors, c'est très complexe parce qu'il y a différents acteurs. Le Parti communiste français est effectivement très puissant. Et donc, tout ce qui peut donner l'impression d'apporter de l'eau à son propre moulin, d'épouser ses positions en faveur officiellement, par exemple, de la coexistence pacifique, de la détente, du commerce est-ouest, etc. Il ne faut pas donner l'impression de cautionner les propositions du Parti communiste. Mais de fait, le Parti communiste s'associe assez peu aux contacts qu'il n'organise pas lui-même. Par exemple, les parlementaires occidentaux qui se rendent dans le bloc de l'Est à partir de 1955, il n'y a aucun communiste. Ce sont des gaullistes, des radicaux, des démocrates chrétiens, des socialistes également. Peut-être 10% des sénateurs et députés français, c'est-à-dire plus d'une centaine de personnes, sont allés en 3 ans derrière le rideau de fer après 55. Donc c'est quand même une proportion importante. Les communistes ne sont pas associés. Ils ne participent pas à ces missions qui sont des missions parlementaires officielles. Donc
ils y vont par d'autres canaux ou au contraire ils
n'y
vont pas?
Ils y vont par contact direct entre les parlements, par voyage d'études, par invitation ou par un ministère quelconque en fonction de leurs compétences respectives. Il y a des canaux très officiels, ce ne sont pas des visites privées.
Mais pour le Parti communiste, les membres du Parti communiste peuvent avoir d'autres accès justement
Ils ont leur propre réseau.
Oui, c'est ça, ils ont leur propre réseau.
Ils y vont par leurs propres moyens, par les liens entre partis, par les liens avec les gouvernements orientaux.
Anaïs Kien.
Ça, c'est intéressant, Nicolas Badalassi, de voir à quel point, à partir du milieu des années 50... On peut, alors peut-être qu'on se trompe sur l'ampleur du phénomène, mais on a l'impression de pouvoir discerner une certaine autonomie des acteurs. Vous citez notamment dans un de vos articles un sommet des savants du monde au Canada en 1957 qui prennent des résolutions, alors qui n'ont évidemment pas valeur de loi, mais des résolutions pour sortir de cette guerre froide et tenter d'instaurer une concorde, en tout cas sur cette planète scientifique qui va ensuite jouer un rôle très important dans les années 70.
Oui, tout à fait. Les scientifiques sont pionniers en la matière, puisque ils estiment très tôt que les dirigeants de ce, du, les dirigeants de, des deux grands et des pays qui font partie des deux blocs ne vont pas suffisamment loin dans le dialogue, même si ce dialogue commence effectivement dans les années 50. Et donc, ils vont prendre une succession d'initiatives destinées à faire prendre conscience aux citoyens du monde de la dangerosité de la situation. Alors effectivement, vous venez d'évoquer l'exemple de Pugwash, qui est une ville qui se trouve au Canada et c'est dans cette ville en 1958 que se réunissent tout un ensemble de scientifiques à la fois de l'Est et de l'Ouest pour dénoncer la course aux armements et essayer de d'œuvrer à la paix, et ils vont faire figure de modèle.
Ils parviennent jusqu'à cet endroit tous ensemble, c'est ça déjà qui peut paraître étonnant.
Oui, alors il faut savoir qu'on est en 1958, donc il y a un certain dégel dans l'URSS khrouchtchevienne, alors dégel qui ne durera pas, mais qui permet tout de même pendant 2 ou 3 ans aux scientifiques de se déplacer plus facilement.
Est-ce que tous les scientifiques qui ont voulu y aller ont pu se rendre dans cette petite ville canadienne ?
Certainement pas, évidemment que non. Il faut savoir qu'en plus, les scientifiques trop proches des secteurs de la sécurité soviétique n'ont absolument pas le droit de sortir du territoire, et ce, jusqu'à la fin de la guerre froide. Mais en tout cas, ce système de Pugwash, de conférence Pugwash, va durer jusqu'en 1988. Et ils vont se réunir régulièrement.
Oui, Justine Ford, 57-58, c'est un moment un peu important. Vous l'avez mentionné brièvement tout à l'heure lors de votre première intervention. Dans le changement de posture du gouvernement américain, mais aussi du gouvernement du RSS, vis-à-vis de cette façon peut-être de renouer des liens, d'accords culturels entre les deux pays, malgré justement le déclenchement plutôt de cette guerre froide.
Oui, tout à fait. Pardon. Du côté américain, c'est vraiment, donc comme je l'ai dit, en 1957 que le gouvernement américain se rend compte qu'il a aussi intérêt à ces circulations, et que ces circulations de personnes ne sont pas seulement un moyen pour Moscou d'envoyer des espions sur le sol américain, ce qui est évidemment la plus grande crainte de Washington, et en particulier du Congrès. Et donc, à partir de 1957, sur proposition soviétique, va être négocié un accord culturel qui finalement est signé en 58.
Et on envoie une quarantaine d'étudiants, donc, de l'université de Moscou et de Saint-Pétersbourg, dans des universités, que ce soit l'Indiana, Harvard, Princeton ou d'autres. Et j'imagine dans l'autre sens, ça se passe aussi dans les deux sens?
Absolument, c'est dans les deux sens. C'est le principe fondamentale des échanges universitaires entre les États-Unis et le bloc soviétique, et le principe de réciprocité. Donc il faut qu'il y ait une égalité parfaite entre les deux.
Anaïs Kia.
Il y a quand même quelque chose d'étonnant, parce qu'on sort de ces premières notes de Kennan à la fin des années 40, un moment de paranoïa quand même très très grand, et finalement très peu de temps après, à la fin des années 50, on arrive à échanger des scientifiques, des intellectuels, des personnes à valeur hautement inflammable d'une certaine façon. Là, il y a un point aveugle de l'histoire de la guerre froide, je crois, en tout cas dans ce qu'on en connaît, c'est-à-dire quelles sont les raisons et quels sont les raisonnements, la pensée de ces échanges qui font que tout à coup, alors que pour la majeure partie des gens, on est encore au cœur de la guerre froide, on arrive à discuter ensemble des paramètres d'un débat commun et d'une construction intellectuelle commune, d'un échange commun. Il y a quelque chose d'assez étonnant à ce moment-là.
Oui, mais il y a des acteurs majeurs qui sont les soviétologues américains. C'est-à-dire que depuis les années 30, ils n'ont pas accès à l'URSS. Donc, et tout d'un coup, c'est possible. Donc, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et donc, on comprend bien que dès le dégel soviétique lancé, vous avez là des personnalités qui sont en plus des personnalités éminentes, qui ont souvent servi de conseillers aux différentes administrations et qui enfin vont pouvoir aller de l'autre côté. Et donc, ils vont être des moteurs absolument essentiel à la mise en place de ces échanges.
Et puis, une envie aussi de tester ce qu'on appelle depuis le soft power américain, c'est-à-dire de montrer la force du modèle américain à ceux qui viendraient, ou celles qui viendraient sur son territoire et qui pourraient repartir en Union soviétique ou dans les pays alliés, alliés de l'Union soviétique, avec des idées nouvelles sur ce qu'est justement ce bloc atlantique.
En fait, le slogan, c'est vérité et comparaison, c'est-à-dire les soviétiques qui arriveront sur le territoire américain pourront à la fois voir la vérité du système américain et comparer avec leur propre système. Et donc, on espère que vérité et comparaison, ils se rendent compte que finalement, le système américain n'est pas si dramatique ou terrible.
Après, ces échanges ne se passent pas toujours de manière idyllique. Il y a une affaire sur laquelle vous avez travaillé, Justine Faure, l'affaire Déac, qui se déroule en 1973. Et en l'occurrence, c'est un historien qui est expulsé de Hongrie. On ne comprend pas vraiment pourquoi, d'ailleurs, mais il est expulsé vertement de Hongrie. S'ensuit des discussions diplomatiques très hésitantes, d'ailleurs, de part et d'autre. Et le gros problème avec cette affaire Déac, qui n'est pas une exception en soi, c'est qu'on a, on commence à ce grand sommet d'Helsinki qui va durer 2 ans et qui va nous amener très progressivement, en tout cas, fourbir les outils de sortie de guerre froide et dans lesquels les gouvernements misent énormément. Et cette affaire des hacks, d'abord, nous intéresse à plusieurs points, à plusieurs degrés, je crois. D'abord, c'est un historien. Le rôle des historiens dans cette diplomatie culturelle planétaire est intéressant, je crois, entre l'Est et l'Ouest. Et ce moment particulier qui fait paniquer pas mal de bureaux des affaires étrangères, parce qu'on est à un moment où on pourrait s'en sortir et que cette affaire d'expulsion de l'historien Déac pointe du doigt des choses qui ne sont pas encore réglées et des réflexes en tout cas administratifs du côté soviétique qui restent relativement courants, parce que ça tombe mal, mais on n'est pas très étonné que ça se passe finalement de cette façon-là.
Justine Faure.
Alors, cette affaire est en fait assez emblématique, parce que István Déac est un exilé. Et donc, c'est déjà un premier problème pour les régimes communistes, c'est que la plupart des spécialistes américains du bloc soviétique sont soit des enfants d'émigrés, soit surtout des exilés. Et donc, István Déac est parti en 48. Et donc, pour les gouvernements communistes, c'est toujours un tout petit peu compliqué d'accueillir sur leur sol des gens qui ont fui le régime. Et donc, là, c'est un premier point de tension. Cette affaire Déac, donc il est expulsé, on est dans la préparation d'Helsinki, donc dans ce moment de durcissement idéologique qu'on trouve dans l'ensemble des régimes du bloc, montre justement cette tension entre les acteurs universitaires et le gouvernement américain. C'est-à-dire que pour les acteurs universitaires, c'est un point de crise majeure, c'est-à-dire qu'un universitaire très respecté a été expulsé, et donc les organisations universitaires décident de suspendre les échanges. Mais pour le gouvernement américain, évidemment, la priorité, c'est de maintenir ces canaux de communication et de contact entre l'Est et l'Ouest, et donc le département d'État va tout faire pour essayer que...
D'étouffer
cette affaire, bon, d'une certaine façon, oui.
Nicolas Banalassi, vous qui avez travaillé justement sur ces accords d'Helsinki qui vont donc se négocier entre 1973 et 1975, il y a avant ces accords des institutions qui servent de passerelle, la CSCE par exemple. Vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette CSCE et son importance justement dans ce passage entre la guerre froide très froide et puis cette guerre froide qui se réchauffe progressivement jusqu'au milieu des années 70. Quel est le rôle que joue cet organisme et pourquoi il est important pour comprendre justement ces liens qui se rétablissent progressivement entre des pays qui sont très opposés?
Alors peut-être avant toute chose, la CSCE, qu'est-ce que c'est?
Oui, justement,
conférence sur la sécurité. La coopération en Europe.
Qui est présentée en tout cas par les soviétiques comme l'apogée de la détente Est-Ouest en 1975. Et la CSCE, c'est tout simplement le processus d'Helsinki. C'est la même chose. C'est un projet qui a été retourné complètement par les Occidentaux contre l'Union soviétique.
Qui remonte au milieu des années 60.
Qui remonte même au milieu des années 50. Dans les années 50, l'Union soviétique de Khrouchtchev, après notamment la révolte des ouvriers de Berlin-Est, c'est fixé comme principal but de politique étrangère de geler les frontières, de geler la situation européenne, à savoir le rideau de fer, et de fait chercher via une conférence à obtenir des Occidentaux qu'ils reconnaissent la mainmise soviétique sur l'Europe de l'Est. Ils n'ont pas cessé entre les années 50 et 60 de proposer cette conférence, et finalement, dans la deuxième moitié des années 60, les Occidentaux, et là je parle davantage des Européens de l'Ouest plus que des Américains, ont accepté la proposition. Pourquoi ? Puisque à la suite de la répression du printemps de Prague en 1968, beaucoup d'Européens de l'Ouest, alors notamment des diplomates, des intellectuels, se sont dit qu'il était temps
de faire quelque chose pour aider justement les dissidents, les opposants politiques. Et de fait, ils ont ces diplomates français, britanniques, allemands surtout, italiens, convaincu leurs dirigeants, notamment par exemple le président Georges Pompidou, d'accepter cette conférence en insérant dans l'ordre du jour toute une série de dispositions qui vont à l'encontre même des habitudes et des pratiques soviétiques, à savoir le respect des droits de l'homme, les contacts entre les personnes,
la circulation,
la coopération culturelle. Et de fait, à partir de 1972-1973, les soviétiques sont obligés d'accepter puisque c'est leur propre projet, donc ils sont mis devant le fait accompli, et les voilà embarqués dans quelque chose qu'ils n'ont pas vu venir, à savoir une négociation sur les droits de l'homme, une négociation sur la coopération culturelle, et ils vont faire des concessions qui vont se succéder les unes après les autres,
en les regrettant parfois.
Alors c'est Brejnev qui dirige alors l'Union soviétique en fait une affaire personnelle de cette CSCE parce qu'il est persuadé que de toute façon ça ne sera pas appliqué. Il sait très bien ce que vaut la diplomatie. L'essentiel, c'est de reconnaître le statu quo est-ouest, comme ça on peut s'occuper de la Chine qui devient de plus en plus menaçante, et puis le KGB se chargera de réprimer tous ceux qui s'y opposent. Sauf que ce que Brejnev n'avait pas prévu, c'est que les Occidentaux mettent en place tout un système de suivi de l'application des dispositions d'Helsinki.
Qui est accepté par l'Union soviétique.
Et de fait, à partir de 1977, on a régulièrement des réunions où sont évaluées la situation des échanges culturels, des droits de l'homme, etc. Et ça va durer jusqu'à la fin de la guerre froide.
Et Émilien Robin, sur ce moment particulier de la fin des années 60 et du début des années 70, où Georges Pompidou est au pouvoir en France, et la position française vis-à-vis de ce qui est en train de se passer, parce qu'effectivement, tous ces acteurs ne sont pas univoques. Les acteurs peuvent avoir des visions différentes. On sait par exemple que dans le bloc de l'Est, dans les années 60, la Roumanie a une position particulière, il y a la Yougoslavie bien évidemment en a une autre, et qu'effectivement on peut jouer à chaque fois sur des postures différentes de chacun de ces acteurs. Et la France là-dedans ?
Alors effectivement, depuis la fin de la guerre froide dure en 53-55, il y a une stratégie de différenciation de l'URSS et des démocraties populaires, et d'avoir des relations individuelles avec chacun de ces États, dans le cadre d'une politique européenne de la France, j'ai envie de dire à l'ancienne, dans la continuité des accords de défense et de coopération qu'il pouvait y avoir dans l'entre-deux-guerres, par exemple. Donc une politique envers l'Europe de l'Est et des relations spécifiques avec la Roumanie, avec la Hongrie, avec la Pologne, etc.
Pompidou, au nom d'une histoire plus ancienne.
Mais aussi dans l'objectif de ne pas d'individualiser chacun de ces États dans l'hypothèse, potentiellement, à long terme, de les détacher d'une forme de l'influence soviétique. Mais on n'est aussi plus dans cette guerre froide des années 50. En 58, quand on discute d'accord culturel, on envisage l'échange de deux lecteurs russes et français. On parle de deux lecteurs seulement. Dans les années durant le mandat de Georges Pompidou, on parle de coopération industrielle et technique directe dans le domaine du nucléaire civil, dans d'autres domaines. Plus largement, par exemple, Fiat va construire les usines automobiles soviétiques à Toliati, des usines qui embauchent 20 000 personnes. Donc on a changé d'époque. Il y a des coopérations industrielles réelles existent entre l'Est et l'Ouest, dans des domaines bien circonscrits.
Et même si le Tupolev ressemble beaucoup au Concorde français, on continue quand même à faire...
On sait qu'on a de meilleurs moteurs.
Anaïs Kien.
Et puis une fois, Émilien Robin, qu'on s'est mis d'accord sur un minimum d'échanges, il faut trouver les moyens techniques de le faire, et la question de la langue commune, notamment pour les sciences dures que vous avez étudiées, devient un enjeu extrêmement important. C'est-à-dire, quelle langue choisir pour que les scientifiques, les industriels ou toute autre personne qui accepte désormais de coopérer, éventuellement de construire ensemble quelque chose, quelle langue choisir pour que cela se passe ?
Dans le cas de la France, il y a une tradition très ancienne de prestige de la langue française en Russie depuis le XVIIIe siècle, et donc beaucoup de les élites en règle générale les élites soviétiques du temps de la guerre froide parlent français. Donc sur ce point précis, je ne crois pas que c'était un problème spécifique. Cela étant, il y a des procédures, des méthodes de travail, des normes qui ne sont pas les mêmes. Et puis,
Du coup, on a une facilité bilatérale.
Il y a une facilité bilatérale, j'avoue que je ne suis pas... Peut-être que l'anglais peut servir de langue de véhicule, mais...
Je crois que Nicolas Badalassi a travaillé un petit peu aussi sur cette question-là, dans le cadre justement d'Helsinki, sur la question des langues d'échange possibles.
Oui, tout à fait. Les Français ont fait plusieurs propositions visant à sanctuariser la place justement du français dans le bloc de l'Est contre l'anglais. Ouais, et là, clairement, il y avait une vraie concurrence avec les États-Unis.
Alors, là, c'est une stratégie mondiale de défense du français et de la francophonie. Oui.
Donc ça n'a pas marché.
Et Nicolas Badalassi, vous avez travaillé aussi sur ces moments informels, parce que une négociation, une discussion, ça ne se passe pas simplement dans les séances officielles. Il y a évidemment toutes les discussions de couloir, et on le sait pour l'ONU encore aujourd'hui, mais aussi ces moments plus festifs, pourrait-on dire, où soviétiques et leurs alliés d'un côté et les Américains et les alliés des Américains de l'autre côté se retrouvent autour d'une table et où, par exemple, les Soviétiques proposent aux Français de venir à l'ambassade discuter avec une petite vodka.
Oui, tout à fait. Ça peut même se produire plusieurs jours d'affilée. Mais effectivement, il y a une sociabilité diplomatique qui se crée entre la France et l'Union soviétique. Oh, d'ailleurs, entre la France et d'autres pays, hein, mais ça fait partie des habitudes diplomatiques que de...
La table.
Voilà, c'est l'art de la table comme instrument diplomatique, une question qui a largement été traitée ces derniers temps. Et c'est vrai que les négociations de la guerre froide sont souvent, notamment dans les années des temps des années 60-70, sans l'occasion de dîner bien arrosé pour essayer de faire déboucher une discussion. Hein. J'ai l'exemple justement à Genève en 1973-74, lorsque, on est en pleine CSCE, les soviétiques tentent de se dépatouiller des droits de la négociation sur les droits de l'homme. Ils décident d'inviter les Français à leur ambassade sur les bords du lac Léman pour tenter de les convaincre à coups de bouteilles de vodka. Et effectivement,
évidemment, on est inflexible dans ces cas-là.
On est inflexible.
Alors, ils ont ordre. On se laisse pas avoir.
Ils ont ordre de Georges Pompidou jusqu'en 1974 de ne pas y aller. Ah. Et ils n'y vont pas.
Jusqu'en 74. Donc
en 74, c'est l'arrivée au pouvoir de Valéry Giscard d'Estaing qui permet de débloquer la situation. Giscard reçoit Brejnev à Rambouillet en décembre 74. Brejnev lui demande de faire un geste pour débloquer les négociations et Giscard dit d'accord, je vais donner des instructions à la délégation. Et à partir de décembre 74, effectivement, régulièrement, les diplomates français se rendent chez leurs homologues soviétiques. Au grand plaisir des soviétiques, même si ça ne marche pas.
Mais tout de même, il est mal récompensé, ce pauvre Giscard, parce que au moment du repas officiel qui rassemble tous les signataires à Helsinki, un repas en forme avec une table en forme de fer à cheval, il est mal placé, il manque de faire un scandale, justement, pour son placement dans cette table,
oui,
qui considère qu'effectivement, ce repas est aussi une façon de montrer l'influence de la France au milieu de tous ceux qui ont signé cet accord d'Helsinki.
Tout à fait. Le placement à table est central hein, en diplomatie, et surtout lorsque on a affaire à un sommet qui réunit 35 dirigeants mondiaux, enfin européens surtout, soviétiques et américains,
justement.
Voilà, et que en haut de la table, c'est une table en fer à cheval. Vous avez le président américain, le président Brejnev, les deux dirigeants est et ouest allemands, le maréchal Tito. Et que Giscard se retrouve dans une des branches du fer à cheval et qui tourne le dos aux principaux dirigeants de ce monde. Donc il y a carrément une esclandre de la part du service du protocole de l'Élysée parce que cela ne correspond pas au rang de la France de ne pas se retrouver à la même table quasiment que les autres.
Anaïs Kien.
Oui, Justine Faure, dans ces contextes universitaires, diplomatiques, on a quand même toujours une question qui s'ouvre à la lecture de ces événements et de ces efforts de coopération, c'est la question de la sincérité. On entend bien à quel point cette fréquentation peut permettre de connaître son ennemi, de là à espérer sincèrement une paix mondiale. Alors une paix mondiale dans le vrai sens du terme, peut-être pas dans le sens où le terme de paix était utilisé justement pendant la guerre froide pour tout et pour rien, mais l'idée de cette sincérité de cette coopération se pose aussi, j'imagine, lorsqu'en tant que chercheur on travaille sur ces efforts pour se rencontrer.
Enfin, je pense que les choses ne sont pas si manichéenne, c'est-à-dire que à la fois il y a une véritable volonté de coopération et de mettre en place des recherches collaboratives entre l'Est et l'Ouest, donc il y a un véritable projet scientifique, et parallèlement ou à côté, il y a aussi un objectif de guerre froide qui est du côté des États-Unis ou des universitaires américains de faire avancer la cause de leur pays, d'essayer de libéraliser les élites soviétiques, etc. Mais je pense qu'on peut pas opposer les deux cohabitent chez une même personne.
Dans une fiction récente, le Bureau des légendes, une chercheuse, justement, une universitaire, est utilisée
une sismologue est utilisée
comme couverture, donc pour une agente de la DGSE. Est-ce que vous avez, en travaillant sur ces questions universitaires, vous avez pointé peut-être l'existence de double casquette comme cela dans les négociations entre les deux, Justine Faure et puis Émilien Robin?
Alors, les universitaires ont toujours fait très attention de ne pas avoir parmi leurs lauréats de membres de la CIA ou de membres des services d'espionnage, parce que ça risquerait de remettre en cause les programmes. Ils sont tellement vitaux pour ces soviétologues qu'ils ne peuvent pas se permettre ce type de choses. Il y a un historien russe, qui s'appelle Sergei Jouk, qui lui a travaillé sur les lauréats soviétiques, et il montre que du côté soviétique, presque tous sont soit membres du KGB, soit
formés par le KGB.
Oui, ou en tout cas, même si c'est de véritables chercheurs, acceptent de collaborer avec le KGB. Mais du côté américain, en tout cas du côté, pour les universitaires, il y a une frontière très étanche entre la recherche et le monde du renseignement. Après, si les lauréats américains qui reviennent du bloc soviétique veulent être débriefés par la CIA, d'une certaine manière, c'est leur problème. Mais il ne faut surtout pas qu'il y ait de contact avant le départ.
Émilia Romain ?
Oui, la question de la sincérité est effectivement intéressante, parce qu'il y a la sincérité des individus, mais aussi le système dans lequel ils sont pris. Il faut bien voir que quand on est un soviétique qui obtient un visa pour sortir du RSS, d'une part, on a un ordre de mission dont la première mission est toujours de défendre l'image de la glorieuse Union soviétique, et les missions proprement scientifiques arrivent en cinquième ou en dixième place derrière différentes missions qui sont des circonstances. C'est systématique, c'est presque administratif, mais ils sont tout de même tenus en théorie par cet ordre de mission qui est semi-politique. D'autre part, et c'est toujours un effet de négociation, des grands scientifiques ont pu se voir refuser la sortie, et donc si on veut pouvoir retourner ensuite à nouveau à l'Ouest pour une durée plus ou moins longue, il y a des formes de service à rendre. Je peux donner un exemple très, très, très concret. Alors là, on est dans les années 70-80, dans un moment où une sorte de routine est rentrée. Ça se passe dans un laboratoire de recherche scientifique à Paris. Un collègue soviétique est présent pour 2 mois et s'intéresse beaucoup, beaucoup à l'annuaire administratif qu'il photocopie. Et donc ses collègues lui ont facilité la tâche en lui accumulant différents papiers sans intérêt, mais tamponnés exprès confidentiels pour lui simplifier la tâche durant ces deux mois de séjour. Donc il y a aussi un petit canular interne à un laboratoire, mais pour montrer que à partir du moment où l'on est sorti de la période héroïque des premiers contacts, des premières trouvailles. Ensuite, une forme de routine se met en place, mais il y a toujours une tentative de manipulation par les services. Oui,
on a quand même du mal. J'ai réfléchi à ce que vous disiez, Justine Faure. Vous pensez qu'aucun des scientifiques qui sont envoyés en URSS ou dans les pays satellites américains n'a pu, à un moment ou à un autre, devenir un espion de la CIA? Vous le pensez parce que vous le voyez dans les archives ou parce que dans les documents déclassifiés? Parce que comme ça, évidemment, parce qu'on a lu John le Carré, on pense que c'est le cas.
C'est-à-dire que pour les premiers programmes d'échange qui sont mis en place à partir de la fin des années 50, ils sont mis en place par des universitaires qui, comme je l'ai dit, naviguent entre l'université et les arcanes du pouvoir politique. Et donc, en particulier, le premier responsable de la principale organisation universitaire chargée des échanges avec le bloc soviétique est à la fois un universitaire, mais un ancien conseiller de la CIA.
Bon.
Donc il ne s'agit pas du tout de dire que la frontière est étanche, et en particulier la CIA, très rapidement, dès 1956, va mettre en place un comité qui justement est chargé d'exploiter au maximum la mise en place de ces échanges avec le bloc soviétique. Mais l'idée, c'est que Il y a une sorte de gentleman agreement. On n'envoie pas d'espions dans ces programmes universitaires. Hein. Alors après, est-ce que c'est totalement respecté ? C'est-à-dire que théoriquement, si l'organisation se rend compte qu'un des lauréats a des contacts avant le départ avec la CIA, son échange est annulé.
Anaïs Kien.
Oui, Mia Robin, est-ce qu'on a des exemples aussi peut-être des fruits récoltés de ces coopérations entre Américains et Soviétiques, ou en tout cas entre blocs de l'Est et de l'Ouest dans le domaine scientifique? Est-ce que ces coopérations ont réussi à être productives malgré la méfiance, les canulars dont vous nous racontiez un petit échantillon tout à l'heure? Est-ce que finalement ces coopérations servent à quelque chose d'autre que de simplement s'habituer aux uns et aux autres?
Ça dépend complètement des domaines, je pense. Il y a de manière éclatante le programme spatial, où à partir de 75, Américains et Soviétiques coopèrent directement dans le programme spatial.
Donc, et la station spatiale qui est au-dessus de nos têtes est le résultat de tout ça.
Tout à fait. Donc, la station Mir est le résultat, entre autres choses, de ces coopérations. Donc là, on a un exemple assez direct. Ensuite, ce serait à affiner en fonction des domaines dont l'on parle. Marc Ferraud a raconté dans ses souvenirs d'historien spécialiste de l'URSS les incompréhensions qu'il pouvait avoir avec ses collègues, qui étaient de fait tenus par ce que le système leur imposait de dire, avec des attaques ad hominem dans des articles dont en fait il ne fallait pas tenir compte quand on se retrouvait en réalité, parce qu'on était forcé de le faire. Ça dépend des domaines. Ensuite, dans un domaine comme les mathématiques qui m'a particulièrement intéressée, l'excellence russe et soviétique était reconnue. Et donc, il s'agissait...
Au même niveau que l'excellence française, d'ailleurs, à ce moment-là.
Tout à fait. Les trois grandes écoles sont l'école russe, française et américaine. Et donc, il s'agissait au minimum que les articles circulent, que l'on puisse publier mutuellement, obtenir des traductions des articles.
Même si vous expliquez qu'effectivement, à partir du moment où se développe le groupe Bourbaki en France, par exemple, il y a peut-être des incompréhensions parce que effectivement les deux écoles se sont séparées assez longuement pour qu'on se comprenne pas tout à fait ce que dit l'autre. Il faut trouver des passerelles pour pouvoir se comprendre.
Disons qu'il y a différentes branches de recherche et l'une des gros champs investis par la recherche française était très étranger ou n'était pas menée en URSS. Inversement, en URSS, à partir du moment où où les scientifiques n'ont pas eu accès aux ordinateurs dont commençaient à disposer les Occidentaux, eux-mêmes ont pris du retard dans certains domaines, alors que les Occidentaux avançaient davantage, et là encore, il y avait une forme de décalage entre les champs de recherche.
Nicolas Badalassi.
Oui, pour dire simplement un mot sur cette discipline qui nous concerne aujourd'hui, à savoir l'histoire. On a une vraie influence, il ne faut pas oublier, de l'historiographie française, notamment en histoire médiévale. Jacques Le Goff, Georges Duby, auprès des historiens des pays de l'Est.
Bronislav Geremek, pas simplement.
Mais nettement moins pour ce qui concerne l'histoire contemporaine.
Nettement moins, puisqu'à celle-là, c'est un domaine réservé à l'État.
Mais d'ailleurs, c'était intéressant parce que le troisième panier d'Helsinki, sur lequel vous avez beaucoup travaillé et qui nous concerne aujourd'hui, la France propose des choses dans le champ historique, dans le champ des programmes d'histoire, dans le champ du rapport des historiens avec l'État.
Exactement. Et justement, elle propose que des monographies communes Est-Ouest soient rédigées pour éviter que les programmes d'histoire soient dictés par les administrations, notamment par l'État en URSS. Les Soviétiques s'y opposent de manière assez virulente. Alors au final, il l'accepte, mais en pensant que ça ne sera jamais appliqué.
Et puis, il y a aussi quelque chose qui, peut-être pour conclure notre discussion, pourrait être mis en avant, c'est que après Helsinki, il y a aussi des associations citoyennes, d'une certaine façon, qui naissent un peu spontanément de soutien, que ça soit pour la Pologne du temps de Jaruzelski, ou encore l'association Jan Hus, qui naît pour la Tchécoslovaquie, que vous connaissez bien, Justine Faure, et qui existe encore, même si elle a moins d'activité qu'auparavant, et qui a l'intention de maintenir, malgré les difficultés, le lien entre intellectuels d'Europe de l'Ouest et intellectuels de ces pays d'Europe centrale et orientale, en organisant des voyages clandestins où Jacques Derrida, Jacques Le Goff et bien d'autres vont donner des cours, par exemple, en Tchécoslovaquie.
Alors du côté américain, c'est plutôt les fondations philanthropiques. Il y a pas mal de travaux justement qui ont été faits sur les contacts entre la fondation Ford et un certain nombre d'intellectuels anticonformistes derrière le rideau de fer. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour les échanges, on va dire un peu universitaires officiels, Helsinki pose un véritable problème parce qu'en mettant en avant la question des droits de l'homme, se pose aussi celle de l'instrumentalisation de ces échanges. Et donc, ça fait peser une menace sur ces programmes d'échange. Est-ce que on ne risque pas de voir suspendre ces programmes d'échange en représailles à des atteintes aux droits de l'homme menées contre des intellectuels ou des chercheurs américains? Et donc, ce qui est assez paradoxal, les accords d'Helsinki sont finalement assez mal reçus par les responsables des échanges universitaires du côté américain, parce que il y a ce risque d'instrumentalisation diplomatique qui est une véritable menace sur le maintien de ces échanges.
Pendant que justement hors de ces échanges traditionnels, pourrait-on dire, qui remontent au milieu des années 50 et que vous décrivez, Justine Faure, d'autres créent d'autres types d'échanges.
Oui, mais ces programmes universitaires officiels sont aussi une protection pour les chercheurs en Europe de l'Est, et tous le disent. C'est-à-dire que lorsqu'on a des réseaux avec l'Occident et qu'on acquiert une certaine visibilité de l'autre côté du rideau de fer, c'est un moyen d'être protégé aussi contre la répression politique.
Et puis, puisque vous évoquiez tout à l'heure, Jacques Le Goff, on sait comment, par exemple, après le coup d'État de Jaruzelski, il a participé, parce qu'il avait des liens anciens avec la Pologne, à faire venir en France des historiennes, historiens, chercheurs en sciences humaines, qui étaient justement sous le coup de ce coup d'État de Jaruzelski, et qui sont venus invités par la France et qui sont restés, qui demeurent encore aujourd'hui dans des centres de recherche des universités françaises, Nicolas Badalassi.
Oui, tout à fait. Ça a été un processus qui a été largement favorisé par des gens comme Le Goff et par le processus d'Helsinki lui-même. Alors, c'est un processus qui s'est accéléré après l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev, notamment. Il a trouvé sa pleine application, y compris dans le domaine des échanges universitaires, qu'avec la perestroïka.
Oui, et ça montre bien, Emilia Robin, que, et c'est ce que montrait le feuilleton d'Anaïs tout au long de ces deux années, qu'il faut effectivement ne pas prendre ni ce bloc géographique, ni cette période historique comme étant monocolore et la même du début jusqu'à la fin. Ce que vous nous montrez depuis le début de cette émission, par exemple, c'est qu'effectivement, sur cette question simplement des accords et des possibilités de discuter, il y a des périodes, il y a des moments, il y a des retraits, des redémarrages, etc., etc., Émilie Romain.
Et des attitudes en fonction des contextes. On a mentionné le cas de la Pologne de Jaruzelski, mais plus largement l'URSS d'après-75, c'est le moment des dissidents. Et après 75, et justement aussi dans le contexte à cause d'Helsinki, beaucoup d'Occidentaux qui vont en URSS le font aussi dans une ambition politique qui est de soutenir les dissidents qui sont mis à l'écart dans des séminaires officieux, par exemple.
Justine Faure, sur ce point, justement, sur ce que vient de dire Emilia Robin et cette nécessité effectivement d'affiner le regard que l'on porte sur cette guerre froide.
Absolument, mais je pense aussi que c'est important de noter que malgré le développement de ces circulations qui sont réelles, et je pense que, enfin, on pense tous d'ailleurs que l'histoire transnationale de la guerre froide apporte beaucoup, il n'y a jamais de normalisation totale. Et évidemment, ces circulations sont toujours fragiles et susceptibles de disparaître.
Un dernier mot, Nicolas Badalassi, sur ce point.
Oui, peut-être qu'il faut garder à l'esprit que malgré tout, la guerre froide est restée froide, et c'est ce qui a permis finalement aux deux blocs de rester en contact tout au long de ce demi-siècle.
Anaïs Quin.
Non, je voulais simplement vous remercier tous les trois parce que vous avez largement contribué à cette série sur les deux saisons, et donc c'était important peut-être de terminer cette semaine de clôture de cette série avec vous trois. Donc merci.
Effectivement, merci beaucoup et merci à toutes celles et à tous ceux qui ont participé à ce feuilleton pendant deux ans. On peut bien entendu réécouter ce feuilleton sur le site internet de France Culture. Bien sûr, c'était la fabrique de la guerre froide. N'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr, pour les télécharger, ces feuilletons, et les écouter. Cette émission, comme toutes les autres, était préparée par Aurélie Marsay et Francesca Fossati. Arnaud Chapat nous a accompagnés à la technique aujourd'hui, et Françoise Camard à la réalisation.